Bien, cette semaine a commencé l'été, la semaine de l'été, je crois. Hein. C'était le 21 juin, c'était le jour le plus long, normalement, la journée la plus longue. Après, on commence à perdre des minutes de soleil. Et c'est aussi la période des soldes, n'est-ce pas? Hein? Alors, ça vous a pas échappé, je suppose. Hein? Été et puis période de solde et puis peut-être parfois cérémonie, c'est aussi le temps où on va dans des cérémonies, des mariages ou des choses comme cela, un peu plus que d'habitude. Et je crois que tout ça se conjugue et va infléchir peut-être notre manière de nous vêtir, n'est-ce pas? Parfois l'été rime avec légèreté. Légèreté vestimentaire un peu. Et je crois qu'il est important pour l'enfant de Dieu, ceux qui en tout cas prétendent être enfants de Dieu et qui sont appelés à tout faire pour la gloire de Dieu. L'Écriture dit, quoi que vous mangiez, quoi que vous buviez ou quoi que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Et ce domaine de notre tenue n'est pas à écarter du cadre de la Bible, du cadre de l'Évangile. Et le vêtement a de multiples fonctions. Je vois que tous nous sommes habillés ici, heureusement. Ça a une forte connotation dans le domaine social. Il demeure clair, en tout cas, que on peut trouver plusieurs fonctions à l'habit, hein, le fait de se réchauffer, le fait d'être présentable pour une manifestation particulière, dans un cadre particulier, etc., ou pour remplir une fonction, les habits qui sont propres à remplir une fonction, hein, les militaires, les gendarmes, les gens de la SNCF, ils ont des tenues qui montrent quelque chose. Mais je crois que la fonction première du vêtement n'est pas l'apparence, c'est pas la beauté, c'est pas la fonction professionnelle, c'est de couvrir la nudité. C'est ce qu'on peut voir. C'est pour cela, en premier lieu, que l'on met des vêtements. Et il faut être, je crois, aveugle pour ne pas voir qu'aujourd'hui, vêtements et nudité se livrent parfois à un jeu subtil. On ne sait plus maintenant qui cache qui. Est-ce que le vêtement cache la nudité ou est-ce que la nudité cache le vêtement? Ouais. Alors, le titre du message ce matin, un peu provocateur, est « Nudité, vêtements et modestie ». Parce que la nudité et le vêtement, quand on lit l'Écriture, apparaissent dans les toutes premières pages de la Bible. Et nudité et vêtements sont au cœur même de l'origine de l'histoire humaine. Et elle nous est décrite dans la Bible, bien sûr, dans la parole de Dieu. Et aussi, on trouve la question de vêtements jusque dans l'Apocalypse. Et la nudité et le vêtement traversent. C'est un thème qui traverse l'Écriture. Alors, aujourd'hui, j'aimerais que, par la grâce de Dieu, nous puissions, on n'aura pas beaucoup de temps pour le faire, c'est un thème qui prend beaucoup de temps, mais en tout cas, réfléchir un peu, amorcer une petite réflexion sur la nudité, le vêtement et la modestie. Alors, le premier point que je voudrais souligner, c'est, en me basant sur un texte qu'on trouve dans la Genèse, bien sûr, c'est la nudité de l'innocence à la honte. Alors, nous allons regarder ensemble Genèse chapitre 2. Alors, on est au tout début de la création, Genèse chapitre 2. Et nous lisons à partir du verset 22. Genèse chapitre 2 à partir du verset 23. Donc, on a la création de l'homme et de la femme. verset 18 jusqu'à verset 22. Et puis au verset 23, nous lisons ceci. Il dit que l'homme dit, voici cette fois, c'est Adam qui parle, voici cette fois, en voyant Ève, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Verset 24, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Et c'est pas Adam qui dit ça. Hein. Jésus dit plus tard que c'est Dieu qui dit ça. Hein. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Et puis verset 25, l'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. C'est étrange qu'une telle information est mise là comme ça au tout début de l'histoire de la création, et Dieu veut souligner quelque chose par cela. Premièrement, il y a eu un temps où la nudité était sans honte. Ça existait. Hein? C'est difficile pour nous de le comprendre, parce que la nudité est vécue pour nous comme une honte. Mais il y a un temps, la Bible le dit, la parole de Dieu le dit, où la nudité était vécue sans honte. L'homme et la femme étaient tous deux nus, et ils n'en avaient point honte. Donc c'est une chose qui ne fait pas partie de notre expérience. C'est un sentiment de non-honte face à la nudité que l'on ne connaît pas aujourd'hui. Et être vu nu est une chose qui nous troublerait le plus, je crois. Et nous plongerait probablement dans la plus grande confusion. Mais ce temps-là, la Bible le montre ici, a existé, où la femme et l'homme vivaient nus. Ils n'étaient pas du tout honteux, pas du tout embarrassés. Ils n'avaient pas honte et ils n'éprouvaient aucune confusion. Cette absence de honte n'indique pas qu'ils ont su surpasser la honte, ou qu'ils ont ravalé, comme on dit parfois, leur honte, leur fierté un peu, et puis qu'ils ont finalement, à force, avec le temps, appris à vivre comme cela. Mais Dieu les a fait comme cela, et ce que Dieu a fait était bon, même, il dit, quand il a créé l'homme et la femme, c'était très bon. Donc cette condition pour laquelle Dieu a mis l'homme et la femme était une condition du point de vue de Dieu qui était très bonne. Et donc ils ont été là, ils n'ont jamais éprouvé le moindre sentiment de honte. Ils pouvaient se regarder sans le désir de se cacher l'un de l'autre ni de se cacher de Dieu. Ils n'avaient rien à cacher, ils n'avaient aucune honte. Et je veux souligner que cette nudité sans honte, ici, a été possible dans un double contexte. D'abord, le contexte de l'innocence, ici. Adam et Ève étaient innocents. Avant la chute, l'homme et la femme n'avaient pas péché, ils étaient des innocents. Et nous ne savons pas ce que c'est que d'être innocent, parce que nous avons beaucoup de choses à cacher. Qui d'entre nous n'a rien à cacher? Je pense que si, comme quelqu'un disait, si on connaissait, on arrivait à savoir ce qu'on a dans la pensée les uns des autres, ou ce que l'on a fait les uns les autres, on se rassemblerait pas, parce qu'on aurait peur et on aurait plutôt tendance à se cacher. Nous avons honte parce que nous avons beaucoup de choses à cacher. Qui n'a jamais menti, qui n'a jamais eu une mauvaise pensée, qui n'a jamais critiqué, qui n'a jamais triché, qui n'a jamais prononcé une parole légère. Je crois que tous, on a fait des choses comme cela. Et c'est pour cela que l'on n'est pas ici innocent. Mais rien de tel pour Adam et Ève avant la chute. Ils vivaient une parfaite relation avec Dieu, leur créateur. Et leur nudité était sans honte, en vertu de cette perfection morale qu'ils avaient, de cette innocence, de cette absence totale de péché dans laquelle ils vivaient. Donc, on voit que la nudité ici était possible dans ce cadre de perfection, d'innocence de l'homme. Mais aussi, j'avais dit qu'il y a un double cadre. Le second cadre, c'est celui de l'alliance du mariage. Le verset 24 ici dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Et ensuite vient le verset 25, l'homme et la femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Je crois que ce verset 25 donne aussi un contexte au verset 25 pour montrer que dans le cadre de l'alliance du mariage, déjà, la nudité est possible. Dans le cadre de l'alliance du mariage, la nudité est possible. Jésus utilise ce verset, vous rappelez, en Matthieu 19, et puis aussi dans l'évangile de Marc, mais quand il parle avec les pharisiens qui lui disent, est-ce qu'un homme a le droit ou non de répudier sa femme? Et vous vous souvenez ce que Jésus dit, mais qu'a-t-il écrit? N'avez-vous pas lu au commencement que Dieu créa l'homme et la femme, d'accord? Il créa homme-femme, et puis il a dit que l'homme quittera son père et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Et il ajoute que l'homme donc ne sépare point ce que Dieu a uni, ce que Dieu a joint. Donc il cite ce verset pour parler de la permanence de l'alliance du mariage. Et ce verset, qui est d'avant la chute, montre déjà la pensée de Dieu dans le cadre du mariage. Donc Adam et Ève sont dans ce cadre-là, ici. D'accord? Dans ce cadre d'alliance du mariage. Et c'est pour cela aussi, que cette nudité est possible. Et l'apôtre Paul, lui, utilise aussi ce verset pour montrer la solidité de l'alliance du mariage, parce que souvenez-vous, en Éphésiens, il parle de que l'homme doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église, que la femme doit être soumise à son mari comme l'Église l'est au Seigneur. Et puis il dit aussi que l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme. Il dit que ça c'est un mystère ici. Et donc il montre au même titre que l'Église est unie à Christ, de manière indestructible, on pourrait dire, l'homme et la femme sont unis aussi par une alliance qui doit être permanente, jusqu'à ce que il y a que la mort qui puisse couper cette alliance-là. Mais il utilise aussi ce verset 24, l'apôtre Paul, dans un autre contexte. Parce que si vous vous rappelez, en 1 Corinthiens chapitre 6, il l'utilise quand il parle de ces hommes qui, à l'église de Corinthe, avaient des relations avec des prostituées. Et il dit, ne savez-vous pas que celui qui a une relation avec une prostituée devient une seule chair avec elle. Et donc, il ne parle pas ici de l'alliance du mariage, mais il parle ici, il prend ce verset-là pour dire, ne savez-vous pas que, donc en vous basant sur ce verset, que celui qui s'associe à une prostituée devient une seule chair avec elle. Donc ce verset parle quelque part aussi de cette union sexuelle qui existe dans le mariage. Quand il dit, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Il est question aussi là de l'union sexuelle. Donc ce verset 24 parle à la fois du cadre de l'alliance, mais aussi de la relation intime que cette alliance permet. Et donc, il termine, et il arrive et il dit, l'homme donc et la femme étaient tous deux nus, et ils n'en avaient point honte, parce qu'ils sont dans un cadre qui est bien défini par Dieu, qui est celui de l'alliance du mariage. Et on peut considérer que l'alliance du mariage donne le cadre après la chute, si, puisqu'on est maintenant après la chute, parce que c'est évoqué dans l'Ancien Testament par Jésus et par Paul, ça donne le cadre d'une nudité sans honte. D'accord. Et on peut lire d'ailleurs dans l'Écriture, dans le reste de l'Écriture, d'autres passages qui montrent cela. Je crois qu'on peut dire que l'Écriture évoque sans rougir, la nudité dans le cadre de l'alliance du mariage. Regardez Proverbes chapitre 5, verset 15. Proverbes chapitre 5, verset 15. Il y a des gens qui disent, oui, la Bible, c'est un livre qui interdit tout, moi je ne peux pas, etc. On pense que dans le monde, c'est là où on a la liberté de s'exprimer à propos de tout. C'est faux. La Bible s'exprime avec pureté sur tout, parce que c'est Dieu qui a créé ces choses. C'est Dieu qui a créé l'homme, c'est Dieu qui a créé la femme. Il les a fait tous les deux nus. Il a dit que c'était très bon. D'accord. Et il parle lui-même de la nudité. et du cadre dans lequel elle est selon sa volonté. Et Proverbes chapitre 5, verset 15, avec cette... le livre des Proverbes, c'est un... si vous lisez le début du livre des Proverbes, il est adressé aux jeunes gens, particulièrement aux jeunes hommes, pour leur faire acquérir de la sagesse. Et particulièrement aussi dans le domaine de la sexualité. Il leur donne des instructions pour la sagesse. Alors écoutez, Proverbes chapitre... je lis dans la version Darby, exprès. Bois les eaux, verset 15, Proverbes 5, verset 15, bois les eaux de ta citerne et ce qui coule du milieu de ton puits. Tes fontaines se répandront au dehors des ruisseaux d'eau dans les places, qu'elles soient à toi seul et non à des étrangers avec toi. Que ta source soit bénie et réjouis-toi de la femme de ta jeunesse, biche des amours. Vous avez gazelle pleine de grâce, moi j'ai chevrette pleine de grâce, et vous avez quoi? Sois en tout temps enivré de ses charmes. Mais je vous donne la version littérale. C'est que ses seins t'enivrent en tout temps. C'est la Bible qui ça. Que ses seins t'enivrent en tout temps. Sois continuellement épris de son amour. Et pourquoi, mon fils, serais-tu épris d'une étrangère, et embrasserais-tu le sein de l'étrangère? Car les voies de l'homme sont devant les yeux de l'Éternel, et il pèse tous les chemins. C'est la Bible qui dit, sois en tout temps au jeune homme, ou à l'homme, épris du corps de ta femme. Mais il le dit dans un cadre particulier. Avez-vous remarqué? Il dit, d'abord, que ta source soit bénie, réjouis-toi de la femme de ta jeunesse. C'est qui la femme de ta jeunesse? D'accord? C'est celle que tu as épousée depuis bon nombre de temps. D'accord? Comme je disais une fois, il y a des gens qui sont attachés à la jeunesse de la femme, mais pas à la femme de leur jeunesse. Hein? La Bible nous enseigne à être attachés à la femme de notre jeunesse, à celle avec laquelle on a fait alliance, c'est ce que ça veut dire. Si vous lisez, je vous lis juste ce que Malachie chapitre 2 verset 4, où Dieu reproche au peuple d'avoir abandonné les femmes pour aller, leurs femmes pour aller vers des femmes plus jeunes. Ils ont divorcé. Et il dit ceci, il dit, pourquoi est-ce que, voilà, l'Éternel vous frappe de toutes ces choses? Malachie 2 verset 14, il dit, parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse. Même expression. Entre toi et la femme de ta jeunesse. Et il dit, à laquelle tu as été infidèle, bien qu'elle soit, alors il décrit maintenant la femme de ta jeunesse, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. L'alliance du mariage. Et ce qui permet de vivre dans une nudité sans honte. Et non, et conforme plutôt à la volonté de Dieu. Il dit pas le fait que deux personnes soient ensemble. Il dit le fait qu'ils soient dans une alliance, dans un cadre bien particulier. C'est ainsi que la Bible et que Dieu dit les choses. Les seuls donc contextes ici où la nudité est permise est celui de la perfection de l'innocence, mais ça n'existe plus, ou celui de l'alliance du mariage. Et puis, bien sûr, on peut ajouter une exception, qui est l'exception médicale, évidemment. Ouais, évidemment. Donc, ce que j'ai voulu souligner ici, c'est que la Bible parle d'une nudité qui peut être vécue sans honte. Mais, à part cela, dans tous les autres cas, la nudité est une honte. La nudité est honteuse. Et la Bible le souligne aussi. Genèse, on revient à Genèse, chapitre 3, verset 7. Genèse, chapitre 3, verset 7. Il est dit, alors là, au Genèse, chapitre 3, verset 1, vous vous rappelez l'histoire, le serpent vient voir dans sa ruse Ève, et puis ensuite il incline le cœur d'Ève qui va manger de désobéir à Dieu, manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et puis ensuite va en donner à son mari. Et puis verset 7, il est dit, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Et ce verset est à mettre en contraste avec 2:25 où il est dit, l'homme et la femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Et maintenant, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent et ils virent qu'ils étaient nus et ils se firent des ceintures pour se cacher. D'accord? L'un de l'autre. Donc quelque chose, bien sûr, s'est passé. D'accord? Et l'homme et la femme, maintenant, ont changé. On voit, ils ont une attitude qui est différente. La honte qu'ils ne connaissaient pas, ils la connaissent maintenant. Et c'est intéressant de voir que la toute première chose qu'ils ressentent, c'est cette honte de la nudité. C'est quand même assez surprenant. Le texte dit les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent et ils virent qu'ils étaient nus. Ils n'ont jamais su qu'ils étaient nus. Ils n'ont jamais vu qu'ils étaient nus. Ils n'étaient pas aveugles. Ils l'ont vu, bien sûr. Mais ce que cela souligne, c'est qu'il y a une conscience nouvelle qui est apparue avec le péché. Le diable les a trompés. Ils ont cru qu'ils seraient comme Dieu, mais non. Ils découvrent le bien et le mal, mais dans une position assez particulière. Ils se méfient l'un de l'autre. Ils ont maintenant quelque chose à cacher, n'est-ce pas? Et ce qui n'existait pas auparavant. Et ça, c'est le tout premier sentiment d'Adam et d'Ève. C'est pas un sentiment de meurtre qui les anime, c'est pas un sentiment de vol qui les anime, c'est la toute première chose qui les anime, c'est cette culpabilité qui se traduit dans la honte de leur nudité, de la nudité de leur corps. Alors bien sûr, on peut comprendre cela comme étant la nudité spirituelle qu'ils ressentent devant Dieu à cause du péché, bien entendu. Mais on ne veut pas quand même, passer vite par-dessus cette nudité du corps, parce que la Bible souligne, il dit qu'ils se sont fait des ceintures, d'accord, pour se cacher, parce qu'ils ont vu qu'ils étaient nus et qu'ils ont éprouvé une honte à cause de leur nudité. Le monde nous dit que le sentiment de honte qui accompagne la nudité est lié à l'éducation moralisante qu'on a subie pendant des décennies et des siècles. Et que si on arrive à se libérer de cela, on verra qu'on pourra vivre la nudité sans honte. Mais la question que je pose, c'est quelle société moralisante Adam et Ève ont eue pour avoir honte? Ils étaient tout seuls. La société, c'était que eux, tout seuls. Ils n'ont pas subi des décennies, des centaines d'années, des siècles au-dessus d'eux. On l'a dit, il faut faire comme ça. Non, pas du tout. Ils étaient nus, sans honte. Et la première fois qu'ils pêchent, tout de suite, instantanément, cette honte se produit. Donc la honte est toujours attachée à cause du péché, et dès ce moment-là, toujours attachée à la nudité. La nudité corporelle devient honteuse et restera honteuse dès ce moment-là, et elle sera toujours associée à la honte, et utilisée même dans la Bible comme l'image même de la honte. Non seulement il y a une honte qui est attachée maintenant à la nudité, mais quand la Bible parlera de la nudité, c'est pour la honte de l'homme, et parfois même Dieu l'utilisera pour humilier, comme image de l'humiliation qu'il fait subir. Je vous lis ici Nahum chapitre 3 verset 5. Il dit: voici, j'en veux à toi, dit l'Éternel des armées. Je relèverai les pans de ta jupe et ton visage. Je montrerai ta nudité aux nations et ta honte au royaume. C'est Dieu qui parle ainsi, hein. Et voilà, il utilise cette image pour montrer la honte la plus extrême dans laquelle son peuple sera. Et il prend l'image d'une femme dont il va remonter les pans de sa jupe, puis il va montrer sa nudité. Et il dit, voilà, vous allez connaître ainsi la honte. Parce qu'il y a une honte qui est attachée à la nudité. Et cela, on pourrait prendre beaucoup de passages de la Bible et voir cela. Ésaïe 43 verset 7, vous avez la même chose. Mais je vais vous lire juste dans Apocalypse, un autre verset, où l'Esprit de Dieu parle aux églises. Vous vous rappelez, à l'église de Laodicée, au verset 18, il dit: je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraissent pas. La honte de ta nudité. La nudité est toujours Or, le cadre qu'on a signalé, le mariage, associé à la honte. Okay. Et non seulement elle est associée à la honte, parfois au jugement même que Dieu prononce. Hein. Regardez Ézéchiel 16, je n'ai pas noté ici, donc il faut que je retrouve. Ah, j'ai pas noté la référence et j'ai mal noté. Mais c'est un peu la même pensée, hein, où Dieu, au verset 37, il dit, voici, je rassemblerai tous tes amants avec lesquels tu te plaisais, tous ceux que tu as aimés et ceux que tu as haïs, je les rassemblerai de toutes parts contre toi et je leur découvrirai ta nudité et ils verront toute ta nudité. Dieu utilise ça comme la chose la plus humiliante qui puisse être. Voilà. Pour son peuple. Donc, il l'emploie sur une dimension spirituelle, mais s'il l'emploie comme image, c'est que l'image physique elle-même, elle est très forte. Sinon, ça n'a pas de poids. D'utiliser une image qui n'a pas suffisamment de force pour décrire quelque chose de spirituel. Donc, c'est que la nudité physique est une véritable honte. Et c'est ainsi qu'il faut la maintenir dans notre esprit. Et puis aussi, non seulement la nudité est une honte, mais elle est interdite et strictement interdite. Si vous lisez le Lévitique chapitre 18, verset, on va pas lire parce qu'il y en a presque trop, j'allais dire, hein. Mais il est question pratiquement dans chaque verset à partir du verset 6 de la nudité, surtout dans le cadre familial. D'accord, la nudité des parents, la nudité d'une sœur, la nudité de la belle-fille, etc. Il faut le lire, hein, pour voir ce que Dieu dit. Je vous lis juste ce qu'il dit au verset 6. Il dit, « Nul de vous ne s'approchera de sa parente pour découvrir sa nudité. » Il dit, « Je suis l'Éternel. » Donc, il dit, voilà, « Je vous dis ceci, nul de vous, verset 6, ne s'approchera de sa parente pour découvrir sa nudité. » Puis verset 7, « Tu ne découvriras point la nudité de ton père, la nudité de ta mère. » C'est ta mère. Tu ne découvriras point sa nudité. Verset 8, tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton père, etc., 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 etc. Et il continue, parfois même au chapitre 20, il y a encore quelques références à la nudité. Donc on voit à quel point c'est interdit. C'est interdit par Dieu. Donc je ne dois pas chercher à voir la nudité. Mais je ne dois pas l'exposer non plus. Je ne dois pas la donner à voir. Faut toujours comprendre les commandements de Dieu, hein, quand ils sont donnés. Il dit, je ne dois pas voir, mais on peut pas dire, ok, les autres ne doivent pas regarder, mais moi je peux me mettre comme je veux. Non, tu ne dois pas non plus t'exposer pour montrer cette nudité. Tu ne dois pas l'exhiber. Et quand on regarde notre monde, on voit combien aujourd'hui la nudité est exhibée. Je lisais un article lequel on voit, il est question maintenant des ados et des pré-ados très jeunes qui, avec les réseaux sociaux, se photographient avec soit tout nu, soit des parties de leur corps dénudées, et puis qui s'envoient les photos, et puis souvent, ça circule, ça fait des dégâts, et après il y a du harcèlement, il y a même des jeunes qui se sont suicidés. Si seulement on avait respecté ce que Dieu dit ici. C'est interdit. Hors du cadre du mariage. Deuxième vérité que je voulais souligner, après avoir parlé de la nudité, de l'innocence à la honte, c'est que le vêtement, deuxième point, le vêtement est un don de la grâce de Dieu. Le vêtement est un don de la grâce de Dieu. Regardons Genèse chapitre 3, revenons à Genèse chapitre 3, et au verset 6, Genèse chapitre 3 et au verset 6, nous lisons, « La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. » Oui, c'est ça, 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir les intelligences, et elle prit de son fruit et l'en donna à son mari. Elle l'en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Verset 7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, et ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Donc on peut voir ici le réflexe premier de l'homme. Le réflexe de l'homme pécheur. Le réflexe de l'homme pécheur, c'est quoi? C'est de chercher à réparer le plus rapidement possible, le plus humainement possible, sa faute, par ses propres moyens. Et c'est ce que font ici Adam et Ève. La Bible dit qu'ils se sont cousus des feuilles de figuier. Alors, je ne sais pas quelle taille les feuilles de figuier avaient, mais en tout cas, ils se sont cousus, ils en ont mis sur leur ceinture. D'accord? C'était un vêtement pour cacher le strict minimum. D'accord? On voit ça aussi de nos jours, hein, des vêtements qui ne cachent que le strict minimum. Mais en tout cas, le réflexe a été de se procurer par eux-mêmes une solution à leur problème. Alors, ils ont compris quand même quelque chose du problème. Ils ont compris qu'il y a une nécessité de couvrir, mais ils font d'une manière qui leur est propre. Et ils tentent, en apportant eux-mêmes un remède à leur situation. Alors, ils saisissent bien sûr ce besoin, mais ils se rendent compte. Ils font un vêtement, un type de vêtement, ils se rendent compte tout de suite qu'il est insuffisant. Et on le voit parce que qu'est-ce qu'ils font? Non seulement ils font le vêtement, mais ils se cachent. Ils se cachent. Regardez au verset 8, il dit, « Alors ils entendirent la voix de l'Éternel qui parcourait le jardin le soir, et l'homme et la femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel. » Voilà des gens qui vivaient dans la présence de Dieu, constamment, en étant nus, sans honte, et instantanément, depuis qu'ils ont désobéi à Dieu, ils se font des choses pour se cacher à la fois l'un de l'autre, et ensuite ils se cachent loin de Dieu. Il y a quelque chose qui est rompu, une confiance qui n'existe plus, une méfiance à l'égard l'un de l'autre, la peur du regard de l'autre. Tout cela est devenu une confusion pour eux. Ils se font, humainement parlant, ce qu'ils pensent, en tout cas réparer leur faute. Mais ce que le texte nous dit ici, un peu plus loin, Dieu les rencontre dans sa grâce, il vient les chercher, il leur parle, il les fait parler, encore, et puis, il, dans la discussion, Adam dit, verset 9, il dit, j'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Il évoque encore cette nudité. Bon, c'est pas vraiment ça le problème, mais il évoque quand même cette nudité. Et puis surtout, je vais attirer votre attention sur ce que Dieu fait. Sur ce que Dieu fait. Après avoir dit, au verset 15, je mettrai une inimitié entre toi, au serpent, et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera le talon, et lui, il te blessera. Non, celle-ci t'écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon. Et donc, c'est une malédiction que Dieu fait tomber sur le serpent qui contient une bénédiction pour l'homme. Il y a une bénédiction enchâssée dans la malédiction que Dieu donne au serpent. Parce qu'il dit, il promet la destruction du serpent par la postérité. Et on comprend bien quand on lit maintenant l'évangile qu'il s'agit de la postérité, qu'il s'agit de Christ qui viendra et qui écrasera la tête du serpent. Ça, c'est la première chose qu'il dit, la première promesse. Mais quel est le premier acte de Dieu? Quelle est la première chose qu'il fait? Verset 21, l'Éternel fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les en revêtit. Dieu a lui-même pourvu des habits pour Adam et Ève, ici. Dans sa miséricorde, il a sacrifié un animal et il a fabriqué un vêtement et il a lui-même mis sur Adam et Ève. Et donc, qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie que on peut voir que par le fait que Dieu revête Adam et Ève, eh bien, c'est que le vêtement témoigne de la volonté de Dieu que le corps demeure couvert, mais de manière conforme à sa volonté. Le vêtement témoigne du fait que Dieu fait, témoigne du fait que Dieu, dans sa volonté, veut que le corps soit couvert et qu'il le soit d'une manière qui soit conforme à sa volonté. Parce qu'ils avaient fait des vêtements, quand même. Et Dieu ne leur dit pas, enlevez-moi ce truc ridicule. C'est quoi ça? Je vous ai créé tout nu, vous devez vivre tout nu, apprendre à vivre. D'accord, maintenant il y a le péché, mais vous devez vivre tout nu. Prenez le temps, avec le temps, le sentiment va disparaître. C'est ainsi que je vous ai mis au début, c'est ainsi que vous devez être. Absolument pas. Absolument pas. Il va beaucoup plus loin dans la couverture que n'ont été Adam et Ève. Eux, ils ont caché ce qu'ils pensaient être le plus honteux. Mais Dieu dit non, tout a besoin d'être couvert. Et le terme qui est décrit par habit, il a fait des habits de peau, c'est le mot qui est traduit ailleurs parfois par tunique et dont la racine veut dire couvrir. Ici, la racine veut dire couvrir. Le dictionnaire biblique dit, parle d'un long vêtement semblable à une chemise de toile. Et quand on regarde dans l'écriture, on peut regarder ce qui se passe avec les vêtements sacerdotaux, hein. On voit la quantité de vêtements, comment Dieu a couvert, a demandé à ce que les sacrificateurs soient couverts. Ça donne une idée, probablement, on peut penser, hein, du vêtement que Dieu a fait à Adam et Ève. Et puis un vêtement solide, qui dure, c'était du cuir, hein, de la peau, hein, c'était pas des feuilles qui se déchirent au moindre mouvement, d'accord, c'était pas du synthétique, c'était vraiment un habit de peau qui a demandé, bien sûr, donc là on voit bien l'image du sacrifice, hein, que Dieu a accompli et qui est présage du sacrifice qui doit venir plus tard, mais il a fait ses vêtements pour montrer que c'est sa volonté que le corps demeure couvert. Et qu'à partir de maintenant, c'est ainsi que les choses sont. Il est hors de question de retourner dans un état où l'homme et la femme vivent nus. Parce qu'il y a le péché. Et la seule manière de résoudre cette question, c'est pas de revenir en arrière. Il y a des gens qui disent parfois, « Oh, ben, puisque Dieu nous a créés tout nus, ben, si on vit tout nu, on ne fait que revenir à ce que Dieu a créé. » Après tout, nous avons été créés comme ça. D'accord? On ne peut pas. C'est interdit. Dieu montre ici qu'il n'y a pas possibilité de revenir en arrière. On ne peut aller que vers l'avant. Que vers l'avant. Et vers l'avant, ça consiste à faire quoi? Ça consiste à prendre le vêtement que Dieu donne. Et à toujours, toujours, toujours prendre le vêtement que Dieu donne. Y compris dans le domaine du salut. Prendre le vêtement que Dieu donne. Qui sera le vêtement par excellence dans l'œuvre que Christ va accomplir à la croix du calvaire. Donc le vêtement témoigne de la volonté de Dieu, que le corps reste toujours couvert. Mais le vêtement témoigne aussi de l'état déchu de l'homme. Le vêtement témoigne de l'état déchu de l'homme, ici. Dieu fait un vêtement, et ce vêtement est une nécessité. Il montre à l'homme que maintenant, dans l'état où tu es, ce dont tu as besoin, c'est un vêtement. La nudité demeure toujours une honte, l'état déchu demeure toujours un état déchu, et la seule manière de vivre avec cet état déchu, c'est de mettre un vêtement. Le fait que nous portons des vêtements témoigne du fait que nous sommes déchus à cause du péché. Ça, c'est une chose que Dieu veut que l'homme se rappelle. Il porte des vêtements parce qu'il a péché. Et le vêtement est quelque chose que Dieu donne, mais qui nous rappelle néanmoins que nous sommes dans un état déchu. Et il ne faut pas l'oublier. Par conséquent, chaque tentative pour enlever le vêtement ne sera qu'une révolte contre Dieu. Non. Manger le fruit est une révolte contre Dieu. Ça amène la honte de la nudité. D'accord? Dieu donne maintenant un vêtement pour cacher la nudité. Enlever le vêtement en prétextant que c'est comme ça qu'on était auparavant, c'est une rébellion contre Dieu qui a donné le vêtement et qui marque que nous sommes dans un état déchu. Donc il est illusoire de penser revenir à l'état d'avant. Quelqu'un a dit, si on essaie de revenir en avant, en arrière, le plus loin qu'on peut remonter, c'est à la chute. On peut pas enjamber la chute pour revenir à l'état d'innocence. La seule manière par laquelle ça sera possible, ça sera de revêtir, de prendre le vêtement, de prendre Christ qui nous amènera couverts dans cette perfection avec Dieu. C'est le seul moyen. Mais en attendant, il dit, pendant le temps que vous vivez sous la terre, vous restez avec ce vêtement. Donc le vêtement, ici, est, comme je disais ici, j'ai oublié ce point que je développais, mais le vêtement, voilà, témoigne de l'état déchu. Et le vêtement aussi, qui est donné par Dieu, est une image du salut. Le vêtement est une image du salut. Déjà, Dieu fait des habits de peau, on l'a souligné tout à l'heure, et donc il a dû tuer un animal pour le faire. Et ce premier sacrifice, c'est le premier d'une longue série de sacrifices, hein. Arrivé à ce sacrifice-là, le sacrifice d'Abel, et puis toute la loi sacrificielle que Dieu va instituer dans l'Ancien Testament, avec le Lévitique, jusqu'à ce qu'on arrive au sacrifice parfait, qui est le sacrifice de Christ, et qui est le vêtement de justice que Dieu veut nous donner, et qui fera plus que couvrir simplement le corps, il couvrira le corps, l'esprit et l'âme. Et donc le vêtement est l'image du salut. On le voit dans l'Ancien Testament. Je vous lis Ésaïe 61, verset 10, dit « Je me réjouirai en l'Éternel, mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut. » Ésaïe 61, 10. « Il m'a couvert du manteau de délivrance. » Et dans 2 Corinthiens, on peut prendre dans le Nouveau Testament aussi plusieurs endroits, hein, il est question de revêtir Christ, hein, vous vous rappelez dans le Nouveau Testament. Donc la métaphore du vêtement est extrêmement présente dans le langage même du salut ou de la rédemption ici. Et dans 2 Corinthiens 5, 2, il dit, « Ainsi nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir le domicile céleste, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. » Encore cette image que je prends ici le vêtement même est utilisé par Dieu comme métaphore, comme image pour exprimer le salut. Donc on voit l'importance de ce vêtement aux yeux de Dieu. Et donc quand on porte des vêtements, c'est plus que pour paraître beau, c'est plus que pour exercer une fonction, c'est pour témoigner de ce que Dieu a fait, ça témoigne de notre état, mais ça témoigne aussi de la grâce de Dieu envers nous. Ça témoigne du salut que Dieu pourvoit et qu'il pourvoira de manière parfaite pour ceux qui placent en lui leur confiance. Et le vêtement fourni par Dieu aussi témoigne aussi de la gloire de Dieu, de la gloire que connaîtra l'enfant de Dieu, hein. Revêtu par Dieu, il est appelé à vivre aussi dans cette gloire de Dieu. Donc, chers frères et sœurs, le vêtement est un don de la grâce de Dieu. Il faut le considérer ainsi. Troisième et dernier point que je voudrais souligner maintenant, c'est que la modestie est la marque de l'enfant de Dieu. Vous pouvez prendre marque dans les deux sens. La marque comme caractéristique, ou la marque comme Nike, la marque vestimentaire. Hein? Voilà, prenez-le dans le sens que vous voulez. Mais la modestie est la marque de l'enfant de Dieu. Qu'est-ce que je vais mettre aujourd'hui? Voilà la question souvent que l'on se pose quand on ouvre sa garde-robe, peut-être un peu moins pour les messieurs, un peu plus pour les dames. Mais qu'est-ce que je vais mettre aujourd'hui? Il fait chaud. La météo est ainsi ou comme cela. Souvent quand on se pose cette question, on se la pose en fonction de ces choses-là, de la météo, mais aussi du regard que les autres vont avoir sur moi, peut-être parfois de l'effet que je veux avoir sur les autres. Et Dieu veut que l'on se pose cette question de ce que l'on va mettre. Mais pas au regard de la météo, ni au regard de l'effet que je vais pouvoir produire sur les autres, mais au regard de l'importance qu'il accorde lui-même aux vêtements et de la fonction qu'il a attribuée aux vêtements. au regard du témoignage que nous avons vu et que renferme le vêtement. À cause du péché, l'homme et la femme ont tout perverti. Le monde impose une mode, mais l'Évangile exhorte le croyant à ne pas se conformer à la mode du monde. Romains dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Le monde nous dit, ton corps t'appartient. Tu as le droit d'en faire ce que tu veux, ici. D'accord? Le droit, on parle beaucoup du droit des humains à disposer de leur propre corps. Mais la Bible dit, en parlant du croyant, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Le monde dit, ton corps t'appartient. Dieu dit, ton corps ne t'appartient pas. Ton corps ne t'appartient pas. Donc quand j'écoute, c'est ça, c'est le travail du diable. Dieu dit, vous mourrez si vous mangez. Le diable dit, vous ne mourrez pas. Dieu dit, ton corps ne t'appartient pas. Le monde dit, ton corps t'appartient. Il nous appartient de connaître exactement ce que Dieu dit et de suivre en tant qu'enfant de Dieu ce que Dieu dit concernant notre corps. Donc il dit que votre corps ne vous appartient point, vous n'appartenez point à vous-même, car vous avez été, 1 Corinthiens 6, verset 20, racheté à un grand prix, glorifié donc Dieu dans votre corps et votre esprit qui appartiennent à Dieu. Et donc, puisque le corps est la propriété de Dieu, je dois réfléchir à la manière avec laquelle je le revêt. Et l'Écriture a une réponse pour nos habits. Elle a une marque à nous proposer, c'est la modestie. L'apôtre Paul dit ceci, « Je veux aussi que les femmes, et on peut aussi inclure les hommes là-dedans, mais c'est vrai que ça touche plus particulièrement les femmes. Je disais souvent à ma femme, on va au supermarché, je dis, mais c'est incroyable, il y a un magasin pour les hommes, et puis 100 pour les femmes. » Je dis, c'est quand même incroyable, pourquoi on n'a pas besoin de vêtements, nous aussi on en a besoin, mais on estime que quand on a une veste, machin, c'est fini, quoi. Bon. Et les femmes, il faut beaucoup de choses. Mais en tout cas, ça concerne nous les hommes aussi, la tenue. Mais c'est vrai que plus particulièrement, puisque l'Évangile le prend dans ce sens, nous voulons garder l'équilibre que l'Évangile a. Il dit, 1 Timothée chapitre 2, verset 9, « Je veux aussi que les femmes, vêtues de manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. » Il est question de s'habiller avec modestie. La modestie est alliée ici, on le voit, à la décence et à la pudeur. Je veux que les femmes vêtues de manière décente, avec pudeur et modestie, dit l'apôtre Paul. Je regarde dans le dictionnaire, la décence, c'est ce qui est convenable au regard de ce qui est normal d'attendre, ce que l'on considère comme juste, acceptable, correct. C'est dans les yeux du monde, mais la décence doit être définie du point de vue de Dieu. On a vu que la décence du point de vue d'Adam, c'était pas la même que celle du point de vue de Dieu. Donc c'est toujours là qu'il faut nous placer. Le mot, pudeur, lui, il traduit une disposition à éprouver une certaine gêne qui peut blesser, qui peut blesser quelqu'un devant l'évocation d'une chose, par exemple. Donc l'évocation d'une chose sexuelle. Donc ça peut, on dit, quelqu'un parle avec les gens, on dit qu'il manque de pudeur. Il n'a pas de gêne, il n'y a rien qui l'empêche de faire cela. Et modestie est parfois traduit par bon sens, ou ce qui est modéré, ce qui est retenu. C'est-à-dire, je vais faire attention, je vais avoir un frein qui va me permettre, je vais analyser, comparer les choses pour voir ce que je dois faire. Donc, on veut que cette manière de se vêtir, Paul dit, je veux que cette manière de se vêtir, de s'organiser, vêtir c'est s'organiser, s'arranger, se préparer, ici, soit avec une certaine retenue, que ça soit bien organisé, bien rangé, que ça soit bien séant, voilà, que je fasse exactement attention à ce que je vais porter pour ne pas blesser, pour ne pas choquer, pour ne pas aller contre ce que la parole de Dieu nous dit. Alors quand on parle des femmes, il est naturel pour la femme de chercher à paraître belle et attrayante, je crois. Mais nous ne devons pas oublier que le diable utilise toujours ce qui est naturel pour le pervertir et le détourner à de mauvaises fins. Donc ici, Dieu dit que l'on doit se vêtir avec retenue, avec modestie. Qu'est-ce que cela implique, en considérant tout ce qu'on a déjà vu? La modestie qui est demandée ici ne peut pas être contraire à ce que Dieu fait dans l'Ancien Testament et ce qu'on a vu. Donc la modestie consiste donc à cacher la nudité. La modestie consiste à cacher la nudité, parce que le vêtement a pour fonction de cacher la nudité. Donc le vêtement modeste cachera aussi la nudité. Et il faut être honnête pour voir que dans le monde, la mode ne rime pas avec modestie. D'accord? On est d'accord là-dessus. Il y a de plus en plus une invitation à se découvrir davantage. Et pour la mode, habiller consiste à découvrir de plus en plus, consiste à montrer de plus en plus. Et j'ai trouvé cette phrase du célèbre couturier que vous connaissez, Yves Saint-Laurent. Il a dit ceci, il a dit: le plus beau vêtement d'une femme, c'est sa nudité. Vous avez compris? Donc, on voit de quelle manière et réfléchit le vêtement que l'on va tailler. Si la nudité c'est le plus beau vêtement, eh bien il faut tailler les vêtements de manière à ce qu'ils mettent en valeur cette nudité. Et on a plusieurs manières de le mettre en valeur. Soit le mettre en valeur en découvrant de plus en plus, ou soit on le mettra en valeur en le couvrant, mais en le couvrant d'une manière tellement serrée que vêtements et corps seront confondus, et que voir le vêtement, c'est voir le corps, tout simplement. D'accord. Donc cela nous montre comment l'enfant de Dieu doit faire attention quand il est question de modestie. Il doit toujours s'habiller de manière à ce que son vêtement accomplisse la volonté que Dieu a voulu pour le vêtement. Et ce que Dieu a voulu, c'est une couverture complète. Complète pour le vêtement. Pas simplement cacher le strict minimum. Voilà. Et je ne vais pas rentrer dans les détails pour ne pas être gênant. Puisque Dieu met le vêtement pour cacher la nudité, la modestie vestimentale doit assurer cette fonction. Un vêtement modeste, un vêtement pudique, un vêtement décent est un vêtement qui cache correctement la nudité. Et vous savez comment la nudité est cachée? C'est quand on peut regarder quelqu'un qui est habillé sans être obligé de détourner son regard. Parce qu'on sait qu'il ne faut pas porter les yeux sur telle ou telle chose. D'accord. J'ai discuté avec un jeune homme il n'y a pas très longtemps. Il m'a dit: oui, j'ai mangé au restaurant. On a parlé de ce thème. Un jeune chrétien, et il me dit: oui, j'ai rencontré une ancienne amie, on a pris un plat au restaurant, comme ça, c'est quelqu'un que je connais depuis très longtemps, et il me dit, il est arrivé avec son vêtement, et puis après, il avait son manteau, après, il a enlevé son manteau, il dit, mais après, il était avec un chemisier en dessous, c'était impossible, il dit, je lui ai dit. Et je lui dis, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, ben, je m'habille pour moi et pas pour toi. D'accord? S'habiller, on s'habille pour les autres. On s'habille pas pour soi, en fait. Hein, vous savez ça? On s'habille pas pour soi. Vous savez pour qui les vêtements des femmes sont faits? Pas pour les femmes. Ils sont faits pour les hommes. Il faut être honnête. Ah, je mets ça parce que ça me plaît. Non, tu mets pas ça parce que ça te plaît. Tu mets ça parce que ça va plaire au regard des autres. Tu le sais très bien. Tu le sais très bien. Et il faut être honnête avec soi-même. Bien sûr, on peut acheter des vêtements qui nous plaisent, la couleur nous plaît, etc. Un bon vêtement nous plaît. Je ne dis pas que ça ne peut pas nous plaire, mais quand on met des vêtements qui provoquent, on sait très bien que ça va provoquer. Et on ne le met pas pour soi, on le met pour être vu, donc on le met pour les autres. Et là, On n'est pas modeste quand on fait cela. Quelle que soit la partie du corps que l'on montre avec ses vêtements. La modestie consiste à cacher la nudité. La modestie vestimentaire doit traduire la piété, la sainteté. Regardez ce que Paul dit dans Tite, chapitre 2, verset 3. J'accélère un peu. Il dit, dites que les femmes âgées doivent avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. D'accord? Il parle de la tenue extérieure. Il dit, les femmes doivent avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Paul parle d'un vêtement qui convient. Qui convient à quoi? Pas qui me convient. J'aime ça. C'est comme ça que je me sens beau ou que je me sens belle. Ça n'a rien à voir. Il dit, l'extérieur qui convient à Dieu, entre guillemets, à la sainteté de Dieu, ici. Et pas celui qui me convient, ou celui qui convient aux autres, ou celui qui convient à la culture ambiante. Adam et Ève ont fait ce qui correspondait à leur culture, hein. Ce qu'ils avaient autour, ils ont ramassé rapidement ce qu'ils avaient dans leur culture autour, ils se sont mis autour des reins. Dieu a dit non, ça c'est pas bon. Je vais te faire un vêtement adéquat. Et il a donné un vêtement correct. Qui convient à Dieu. Je me suis posé la question, qu'est-ce qu'on penserait si Dieu nous disait, bon, c'est les soldes, je vais vous acheter des vêtements. Hein, tu dirais yes, hein. Et puis il a les moyens. Il dit, je vous achète des vêtements. Laissez-moi le faire. Est-ce qu'on dirait, oh là, Seigneur, donne-moi l'argent, laisse-moi faire moi-même, hein. J'ai peur, hein. Ça c'est pas la mode, ça, Seigneur. Ça c'est trop long, on met pas ça. D'accord? Ça c'est trop ample, on ne peut pas mettre ce nom de vêtements. Imaginez, je suis sûr que nous ne serions pas hommes et femmes tout à fait d'accord avec la manière qu'il utiliserait les sous pour nous vêtir. Mais on doit se poser cette question quand on achète, quand on doit faire nos soldes. Qu'est-ce que je dois mettre? Est-ce que, Seigneur, c'est ça, je peux mettre ça? On prie pour beaucoup de choses et très peu, peut-être même pas du tout, pour les vêtements que l'on porte. Et on veut surtout pas même, parfois, que l'Église nous parle des vêtements que l'on doit porter. Je suis assez grand pour savoir ce que je dois porter. Mais la Bible nous dit ce que l'on doit porter. Puis, la tenue modeste ne doit pas contredire la profession verbale. L'apôtre Paul dit, je reprends le passage de Timothée, « Je veux aussi que les femmes soient vêtues d'une manière décente avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir. » Autrement dit, la tenue extérieure doit être en accord avec la profession de notre foi, de notre appartenance à Christ. La tenue parle aussi. Et il ne faut pas que ce qu'elle dit soit en opposition avec ce que je professe de ma bouche être. Il y a un adage qui dit, montre-moi comment tu t'habilles, je te dirai qui tu es. Ça existe, hein? Tu me montres comment tu t'habilles, je dirai qui tu es. Parfois, on voit des gens qui passent, on dit, ah ben ça, c'est une... Oui, c'est facile à voir. Et puis, des fois, on peut se tromper, hein? On voit quelqu'un qui est habillé, et puis on dit, c'est quand même une tenue qui inspire le respect. On s'est promené en fleurs une fois, il n'y a pas très longtemps, avec ma femme et... à l'Ascension, le jour de l'Ascension, et puis on a vu un couple qui venait en face de nous, et après, ils sont passés. J'ai rien dit à ma femme, elle m'a rien dit. Et après, elle me dit, on aurait dit des chrétiens. J'ai dit, mais j'ai eu la même pensée que toi. Tu vois, c'est des gens habillés de manière, puis c'était couple, simplement, mais bien, mais de manière très, très simple, il n'y avait pas d'exagération, et je sais pas pourquoi, ça veut pas dire qu'ils sont chrétiens, mais ça veut dire que parfois on voit des choses dans notre tête il y a une manière de s'habiller quand même, qui inspire quelque chose. Et qui ne vient pas contredire ce que nous professons ici. Et aussi je termine en disant ceci, pour les points que je développe, la tenue modeste excite les bonnes œuvres et non la tentation. Excite aux bonnes œuvres et non à la tentation. La Bible dit, veillons les uns sur les autres, pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. D'accord. Et l'apôtre Pierre dit, ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que la même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Et l'apôtre Paul, dans le verset qu'on vient de lire, Il dit ceci, je vous rappelle, pour revenir avec les bonnes œuvres, il dit « Quelle se part de bonnes œuvres ?» C'est-à-dire que ce par quoi on doit être connu, c'est par, pas par nos habits, l'extravagance de nos habits, mais par la qualité de nos bonnes œuvres qui permettent de glorifier Dieu. Quelques points de conclusion, chers frères et sœurs. 1. L'évangile pénètre toutes les sphères, j'avais déjà dit ça une fois, de la vie chrétienne. On voudrait parfois dire au prédicateur, contente-toi de nous dire ce que Jésus a fait à la croix, parle-nous de la rédemption et laisse-nous nous occuper de la partie éthique. On est adulte, on sait le faire. Ne nous parle pas de la longueur de nos jupes, etc. C'est pas moi qui le fais, c'est la Bible qui dit, l'apôtre Paul dit dans 1 Timothée 2:7, qu'il a été établi prédicateur pour instruire les païens dans la foi et dans la vérité. Et il fait cela en commandant aux femmes comment elles doivent se tenir. Modestie, pudeur et décence. Et cela a à voir avec tout ce que le vêtement comporte dans ce qu'on lit dans l'ensemble de l'écriture. C'est une première chose. La manière avec laquelle vous vous habillez concerne l'évangile, parce que l'évangile vécu dans le cœur se manifeste aussi dans le corps, parce que le corps aussi appartient à Dieu. Et Christ est mort pour le rachat de l'âme et du corps. Deuxièmement, vous êtes responsable, nous sommes responsables de l'effet de notre conduite ou de notre apparence, que l'effet que ça provoque chez les autres. Okay. Les hommes sont responsables de leurs pensées mauvaises quand ils regardent une femme, mais les femmes sont responsables devant Dieu de les y avoir poussées. Il faut être conscient de cela. Beaucoup de femmes s'habillent de manière provocante. Elles n'ont peut-être pas l'intention de provoquer, mais il n'empêche qu'elles provoquent et font chuter et sont une pierre d'achoppement bien malgré elles. Donc l'homme va devoir répondre à Dieu pour son regard malsain, pour tout ce qu'il a fait. Mais la femme aussi va devoir rendre compte à Dieu si elle a provoqué dans ce sens-là. Choisissez soigneusement ce que vous devez mettre cet été. Que cette année, pour nous chrétiens, l'été rime avec pureté. Et que nous nous habillons d'une manière qui glorifie Dieu. Donc, choisissons soigneusement les vêtements que nous allons porter. Et assurons-nous qu'ils sont estampillés de la marque divine qui s'appelle modestie, décence et pudeur. C'est ça que Dieu veut pour nous. Prions pour cela, prenons cela à cœur. Ne faisons pas comme si c'est une question accessoire. Ce n'est pas accessoire, le vêtement n'est pas accessoire dans la Bible, on le voit bien. D'accord. Et donc prions pour que nous puissions avoir, comme l'apôtre Paul dit, l'extérieur qui convient à la sainteté. Que ce ne soit pas nos lèvres seulement qui disent que nous appartenons à Dieu, mais que notre tenue vestimentaire le dise aussi. Parce que la sainteté du corps à laquelle nous sommes appelés dans l'Écriture passe inévitablement par la pureté des vêtements que nous portons, par la nature des vêtements que nous portons. Que le Seigneur nous aide à considérer cela. Et peu importe ce que le monde dit, le monde ne nous jugera pas. Un jour, c'est devant le Seigneur que nous paraîtrons. C'est pas devant le monde que nous paraîtrons. Et nous voulons être trouvés en lui comme des enfants obéissants. Prions. Nous te remercions, Seigneur, pour ta parole et pour la vérité que nous y lisons. Et nous te demandons que tu nous aides dans cette période qui vient devant nous de vivre comme ta parole nous le commande. Seigneur, il y a tant de choses que nous faisons peut-être parfois sans réfléchir parce que c'est la coutume et nous ne nous soucions pas de savoir si tu es offensé ou non. Nous te demandons pardon. Mais nous voulons apprendre à vivre comme ta parole nous le commande. Obéir à tous tes commandements. Tu dis dans ta parole que celui qui t'aime, il garde tes commandements. Et nous devons apprendre à les connaître et à les garder. Aide-nous dans nos familles, en tant que père, en tant que mère, à être ferme sur ces points. Et donne ton esprit dans les cœurs de chacun, afin qu'il puisse les recevoir et les appliquer. Seigneur, aussi, nous voulons te prier pour ceux qui ne te connaissent pas, ceux qui sont nus spirituellement et qui ont besoin de ce vêtement de la justice, que tu touches leur cœur, que tu les transformes, Seigneur, ce matin même, et que tu les attires à toi, que tu les couvres de ce vêtement du salut, de Jésus-Christ, de la foi, de la repentance. Et Seigneur, que tu fasses d'eux des hommes et des femmes qui te connaissent, qui te servent et qui agissent conformément à ta volonté. Te prions ces choses en ton nom et pour ta seule gloire. Amen.